Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, on retrouve dans les textes liturgiques d'aujourd'hui des idées qu'on retrouve très fréquemment, notre Seigneur. Toujours cette miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ pour le pécheur repentant. Et l'Église nous donne ici l'exemple de deux miracles de notre Seigneur. D'abord, un juif lépreux qui vient se faire guérir par notre Seigneur. Et puis un centurion admirable, un païen, qui vient aussi vers notre Seigneur, même pas pour lui, et vient pour demander la guérison d'un de ses serviteurs. Et notre Seigneur Jésus-Christ va les guérir tous les deux. Il y a déjà une idée très simple derrière. Notre Seigneur Jésus-Christ montre ainsi qu'il est venu non pas seulement pour les Juifs, mais pour le monde entier. Les Juifs, autant notre Seigneur Jésus-Christ, étaient persuadés tous que le Messie était simplement le Messie pour les Juifs. Il ne fallait donc pas aller à l'extérieur. Il ne fallait pas s'occuper des autres, il n'y avait que les Juifs. Et notre Seigneur Jésus-Christ, en guérissant quelqu'un qui n'est pas juif, le centurion n'était pas juif, eh bien, il montre justement qu'il est venu pour tous les hommes. Et la condition... Il y a deux conditions. La première, c'est de s'approcher de notre Seigneur, demander. La deuxième, c'est l'humilité. On le voit très bien dans le premier miracle. Ce lépreux s'approche de notre Seigneur. Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me guérir. Donc, par cet acte, par cette parole toute simple, il donne déjà le pouvoir divin à notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous le pouvez, vous pouvez me guérir. Ça veut dire, je reconnais que vous avez un pouvoir supérieur aux hommes, puisque les hommes normaux ne peuvent pas me guérir. Mais vous, vous pouvez parce que vous êtes Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ va lui dire, je le veux, sois guéri. Et l'homme est immédiatement guéri. Et dans le deuxième cas, le cas de ce serviteur, de ce centurion romain, il va utiliser une phrase pour nous rappeler cette fois-ci la nécessité de l'humilité. Il faut aller à notre Seigneur, première étape, il faut l'humilité. Voilà notre Seigneur Jésus-Christ, en allant à notre Seigneur Jésus-Christ, on exerce la vertu de foi. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il est Dieu, sinon on ne va pas vers lui. Ça ne suffit pas, il faut aussi l'humilité. Et ce centurion va dire cette phrase que l'Église aime tellement qu'elle a placée 6 fois dans la messe. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie, mon serviteur sera guéri. Et 6 fois, la Sainte Église va répéter cette phrase. Ce n'est même pas une phrase de notre Seigneur. C'est une phrase d'un païen qui vient s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ pour montrer l'influence de l'humilité sur le cœur de notre Seigneur. Donc on ne peut pas obtenir un miracle de notre Seigneur Jésus-Christ sans ces deux choses, sans d'abord s'approcher de notre Seigneur par la foi et deuxièmement sans la vertu d'humilité. Et ceci débouche évidemment sur la vertu de charité. L'histoire nous dit que on ne connaît pas le nom du premier miraculé, on ne connaît pas le nom du juif qui a été guéri de sa lèpre. Par contre, on connaît le nom du centurion. Il s'appelait Caius Cornelius. C'est un Espagnol. Et après son temps dans l'armée romaine, il est rentré en Espagne. Et là, en 34, il a été baptisé par Saint Jacques le Majeur. Jacques le Majeur, c'était l'apôtre qui avait commencé l'évangélisation de l'Espagne, avait bien du mal d'ailleurs. Et il a été baptisé par Saint Jacques le Majeur, et ensuite est devenu un disciple et de Saint Pierre et de Saint Paul. Et il avait un fils, et ce fils, on va le retrouver plus tard, ce fils, on va le retrouver en fait, à peu près le miracle de notre Seigneur Jésus-Christ à l'égard du Père. Donc le fils de ce centurion romain, c'est le centurion qu'on retrouve au pied de la croix. Le centurion qui, en voyant tous les miracles de l'éclipse du soleil, des tremblements de terre, fait cette profession de foi extraordinaire. Vraiment, cet homme était le fils de Dieu. Eh bien, ce centurion-là, c'était le fils de celui qui a été guéri, qui a obtenu guérison pour son serviteur aujourd'hui. Et donc, je crois qu'il faut vraiment méditer un petit peu sur ces choses-là. Et il y a un autre point qui est extrêmement important, qui est un point qu'on rencontre tout le temps dans les évangiles. C'est un point Les modernes ne parlent jamais parce qu'ils ont horreur de ces passages-là. Notre Seigneur Jésus-Christ va encore faire des allusions très très fortes sur le rejet du peuple juif. Et il va dire, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Notre Seigneur Jésus-Christ constate que des païens viennent à lui, alors que la plupart des juifs vont le refuser. Et les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Qu'est-ce que ça veut dire les ténèbres extérieures? Les ténèbres extérieures, chez tous les pères de l'Église, interprètent de la même façon, c'est le rejet par Dieu. C'est-à-dire, c'est l'enfer. Les fils du royaume, qui sont ces fils du royaume? Il y a deux interprétations possibles. Les fils du royaume sont d'abord les juifs de l'Ancien Testament qui refusent notre Seigneur. Tous ne l'ont pas refusé, bien sûr. Heureusement, il y en a qui l'ont accepté. Et là, c'est une grande partie d'entre eux ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, seront donc rejetés par notre Seigneur. Mais les fils du royaume, attention, c'est aussi nous. Pas voir simplement toujours les juifs. Il faut voir aussi que notre Seigneur Jésus-Christ nous parle à nous. Les fils du royaume, nous sommes les fils du royaume dans le sens que nous avons en nous par le baptême un pouvoir d'aller dans ce royaume des dieux, du royaume des cieux. Et les fils du royaume, qui seront jetés dans les ténèbres extérieures, montrent que tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, même pour les catholiques qui ont remplacé le peuple juif comme peuple élu, je vous l'ai déjà expliqué souvent, eh bien, si nous refusons justement cette foi et cette humilité qui sont nécessaires pour que nous puissions nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous serons rejetés comme les autres. Et c'est pour ça que notre Seigneur va rajouter, les païens prendront place au festin de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur réexplique la même chose qu'il va réexpliquer plusieurs fois, puisque les Juifs ne veulent pas prendre la place au festin. Rappelez-vous toutes les paraboles du festin. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui se compare à un roi qui va inviter tout le monde, et la plupart des gens ne veulent pas venir au festin. Notre Seigneur Jésus-Christ est obligé d'envoyer ses serviteurs pour chercher d'autres personnes pour venir occuper les places du festin. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ le dit bien, les païens vont venir prendre la place. Et c'est très important pour nous. Parce que si nous n'avons pas cette foi, cette humilité qui sont nécessaires, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Si nous n'avons ni foi ni humilité, eh bien, d'autres personnes vont venir prendre nos places. Donc il faut demander justement cette grâce de conserver la foi. Il ne faut pas se dire j'ai la foi par le baptême, pas de problème, je suis sauvé. Attention, il faut l'humilité. Je ne suis pas capable de dire moi aussi cette phrase. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, de vous entriez dans mon âme, et dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Eh bien, je serai rejeté, moi aussi jeté dans les ténèbres extérieures. Donc il faut demander vraiment cette vertu d'humilité. Et surtout aujourd'hui, elle est nécessaire, parce que le péché du monde moderne, c'est l'orgueil. Soit j'appartiens au peuple élu, au vrai peuple élu, et je dis, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Soit je refuse notre Seigneur Jésus-Christ, je prononce une autre phrase, qui est répétée malheureusement tout le temps, je ne servirai pas. Je ne veux pas que ce roi règne sur moi. Alors demandons justement, Patre Sainte Vierge Marie, demandons cette grâce, justement, de pouvoir garder cette vertu d'humilité. Et dans l'Épître, on retrouve aussi des idées qui sont très belles. C'est l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Notre Seigneur nous donne deux conseils. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, et travaillez à vaincre le mal par le bien. De quel mal parle-t-il? Pas se laisser vaincre par le mal. Il parle du mal réel. Aujourd'hui, dans le monde moderne, on parle toujours des différents mots, mais ce ne sont pas des mots véritables. Le mal réel, c'est le péché. Et ce mal réel n'a aucune importance dans le monde moderne. Je suis convaincu que l'unique vrai mal, c'est le péché. Donc la chose la plus grave que je puisse commettre, c'est commettre un péché grave. Rappelez-vous, Blanche de Cassis, la mère de Saint-Louis, qui disait à son fils, Beau fils, je préfère vous savoir mort à mes pieds que de vous voir commettre un péché mortel. Donc, il faut savoir demander la grâce, justement, de savoir vaincre le mal. Comment est-ce que nous vainquons le mal du péché? Et nous vainquons le mal du péché par la confession. C'est pour ça que le bon Dieu nous a donné le sacrement de pénitence. Sacrement de pénitence nous aide justement à vaincre ce mal. Mais là encore une fois, on retrouve les deux mêmes conditions. Pour pouvoir vaincre ce mal, le mal du péché en nous, par le sacrement de pénitence, quelles sont les conditions? On retrouve les deux mêmes conditions, la foi et l'humilité. Il faut la foi. Faut la foi pour aller s'agenouiller devant le bon Dieu, en le représentant du bon Dieu, en disant pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché. Puis il faut l'humilité, parce que s'il n'y a pas l'humilité, je suis trop fier de mes péchés, il est évident que je ne pourrais pas en obtenir le pardon. Mais dans, tant dans l'Évangile que dans l'Épître, on retrouve la même idée, la foi et l'humilité sont nécessaires pour obtenir la charité. Et notre Seigneur nous dit qu'on va vaincre ce mal par le bien. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est le péché, et le bien, c'est quoi? Le bien, c'est la vertu. Et donc, mettre le démon dehors et remplacer le démon par le bon Dieu. Donc, il y a deux étapes. Mettre le bon Dieu dehors, première étape, par la confession. Deuxième étape, remplacer immédiatement l'amour du démon, l'amour du monde, par l'amour du bon Dieu. Ce ne sont pas des choses qui se font toutes seules. C'est pour ça qu'il y a un combat qu'on appelle le combat spirituel. Un combat terrible, qui est un combat de tous les jours, de mettre le bon Dieu dehors, je veux dire de mettre le démon dehors, de mettre le monde dehors, le monde des concupiscences, des trois concupiscences dehors, et remplacer l'esprit du monde par l'esprit de notre Seigneur. Il ne peut plaire à deux maîtres, peut servir deux maîtres à la fois. Alors il faut vraiment demander ces grâces, nous arrivons à la fin du temps liturgique de l'Épiphanie, puisque dans 2 dimanches, ce sera déjà le temps de la Septuagésime, on va se rapprocher de la grande quarantaine du carême. Et donc il faut justement demander au bon Dieu, en ces temps un peu intermédiaires entre la grande fête de Noël et la montée au calvaire de notre Seigneur Jésus-Christ, demander au bon Dieu ces vertus qui nous sont nécessaires pour que nous puissions accepter notre Seigneur. Et c'est extrêmement important de comprendre ces choses, se maintenir dans l'humilité. Je pense que si la France est devenue une poubelle actuellement, si le nombre des Français qui ont encore la foi est infinitésimal en France, c'est précisément à cause de cet orgueil. L'orgueil a pris la place de Dieu. Le prince de l'orgueil a pris la place du prince de la paix. Le prince de l'orgueil, c'est le démon. Le prince de la paix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, passons, mes bien chers frères, par la très sainte Vierge Marie. Un dimanche prochain, ce sera la fête, en fait, de la Chandeleur, de la présentation de notre Seigneur, la purification de Notre-Dame qui va prendre préséance sur le dimanche. Et justement, juste avant l'arrivée du temps de pénitence, de la Septuagésime, mais le temps de pénitence du carême, donc l'Église va nous demander justement de demander la protection de notre sainte Vierge Marie. Passons par elle. On ne peut pas s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ sans elle. C'est impossible parce qu'elle est l'intermédiaire. Encore une fois, c'est une chose que le monde moderne a un mal fou à comprendre. Ils nous disent tout le temps, mais pourquoi voulez-vous passer par les intermédiaires? On ne peut pas aller directement à notre Seigneur? Eh bien, le bon Dieu a voulu que nous passions par des intermédiaires. Pourquoi? Pour nous maintenir justement dans l'humilité. Toujours la même chose. Parce qu'on retrouve la même idée, pour pouvoir utiliser Notre-Dame comme un intermédiaire entre nous et son Fils, Dieu. Il faut les deux choses, il faut la foi et l'humilité. Parce que si je ne reconnais pas qu'elle est mère de Dieu, je ne lui accorde pas le pouvoir de m'amener vers le bon Dieu. Et il faut l'humilité, parce que notre Seigneur Vierge Marie, elle est comme son divin fils, elle n'aime pas l'orgueil des orgueilleux. Les orgueilleux n'acceptent pas l'intervention de notre Seigneur Vierge Marie. C'est pour ça que dans le monde moderne, ils ont complètement rejeté la Sainte Vierge. La Sainte Vierge n'a plus aucune importance. Précisément parce que la très Sainte Vierge Marie, c'est l'humilité. Je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait en moi selon votre parole, pas selon la mienne. Qu'il en soit fait en moi selon votre volonté. Très Sainte Vierge Marie s'est soumise à la volonté de son divin Fils. Eh bien nous, il faut nous soumettre à la volonté de la très Sainte Vierge Marie pour pouvoir nous soumettre à la volonté de son divin Fils. Encore bien des mystères qu'il nous faut méditer, mes bien chers frères. Donc demandons à la très Sainte Vierge Marie dans cette fin du temps de l'Épiphanie, de nous apprendre à ouvrir notre cœur à l'entrée de la grâce. Le bon Dieu est à la porte, mais il attend. On le voit très bien là, dans les deux miracles d'aujourd'hui. Il attend que le lépreux vienne à lui. Il attend que le lépreux, avec humilité, demande sa guérison. Alors, notre Seigneur l'accorde. Je le veux, sois guéri. Et si le centurion n'était pas venu à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et c'est tout. Il savait très bien que ce serviteur avait un serviteur, que ce centurion avait un serviteur malade. Eh bien, il a attendu que le centurion vienne à lui, qu'il explique le cas, qu'il demande la guérison de son serviteur, et notre Seigneur Jésus-Christ va l'accorder. Alors passons, mes bien chers frères, par la très sainte Vierge Marie, pour savoir nous maintenir au pied de la croix. On est un peu comme des enfants, on a peur du danger. Alors, on n'ose pas rester au pied de la croix. Parce que contempler notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt sur la croix, c'est quand même pas quelque chose de très amusant. Alors, on a tendance à prendre nos jambes à nos cous et nous sauver comme des lapins. Et notre Seigneur Vierge Marie nous rattrape, nous prend par la main et nous maintient au pied de la croix. C'est le rôle de la Sainte Vierge. Et nous maintenant au pied de la croix, non seulement elle nous maintient au pied de la croix, elle va nous demander de lever les yeux vers le Sacré-Cœur. Et en levant les yeux vers le Sacré-Cœur, on trouvera ce lieu de refuge dans lequel justement le bon Dieu nous a préparé toutes ses grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.